De toute façon, je pense que les textes que je veux dire, nous les connaissons déjà. Je suppose. Dans Esdras, la première année, Cyrus, le roi de Perse, afin que fût accomplie la parole de l'Éternel, dite par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, le roi de Perse, et il fit une proclamation dans tout son royaume, et la publia aussi par écrit, disant, « Ainsi dit Cyrus, le roi de Perse. » L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qu'il entre vous, quel qu'il soit, et de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison d'Éternel, le Dieu d'Israël, lui et Dieu à Jérusalem. Et celui qui est du reste dans tous les lieux où chacun séjourne, que les hommes du lieu lui viennent en aide avec de l'argent, avec de l'or et avec des biens, avec du bétail, outre les offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors se levant les chefs des pères de Juda et de Benjamin, et les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit, afin de monter pour bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Chapitre 3. Quand arriva le septième mois, les fils d'Israël étant dans leur ville, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Et Jeshua, fils de Latsadak, et ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, et ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ils établirent l'autel sur son emplacement, car la terreur des peuples de ces contrées était sur eux. Et ils offrirent dessus des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir, et ils firent la fête des tabernacles selon ce qui est écrit, et des holocaustes jour par jour, selon leur nombre, selon l'ordonnance, le service de chaque jour en son jour, et après cela l'holocauste continuel, celui des nouvelles lunes, et de tous les jours solennels de l'Éternel étaient sanctifiés. Et les holocaustes de tous ceux qui offraient une offrande volontaire à l'Éternel, depuis le premier jour du septième mois, comme ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel. Mais les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Un peu plus loin, la seconde année de leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Jeshua, fils de Jotsadak, et le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient venus de la captivité à Jérusalem commencèrent et ils établirent les lévites depuis l'âge de 20 ans et au-dessus pour surveiller l'œuvre de la maison de l'Éternel. Alors Jeshua et ses fils, et ses frères, Kadmiel et ses fils, et fils de Juda, se tinrent là comme un seul homme pour surveiller ceux qui faisaient l'ouvrage de la maison de Dieu. Un peu plus loin, nous trouvons que les lévites étaient rassemblés pour louer l'Éternel selon les directions de David, roi d'Israël. Et ils s'entre-répondaient en louant et en célébrant l'Éternel, car il est bon, car sa bonté envers Israël demeure à toujours. Et tout le peuple poussa de grands cris en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Et beaucoup d'entre les sacrificateurs et d'entre les lévites, et d'entre les chefs des pères, les vieillards qui avaient vu la première maison, pleurait à haute voix lorsque les fondements de cette maison furent posés devant leurs yeux. Et beaucoup poussaient des cris de joie en élevant leur voix, et le peuple ne pouvait distinguer entre le bruit des cris de joie et la voix du peuple qui pleurait, car le peuple poussait de grands cris et le bruit s'en entendait trop loin. Quelques mots déjà à ce propos. Nous connaissons la situation d'Israël lorsque Cyrus se vient. Le peuple est déporté à Babylone à cause de son péché. C'est ça à la fin du livre des Chroniques, comment l'Éternel a décidé de rejeter son peuple pour un temps et permet à Nebuchadnezzar de venir et de détruire la ville et d'emmener le peuple à Babylone. Jérémie avait prophétisé que la chose durerait 70 ans. Et effectivement, au bout de 70 ans, l'Éternel a suscité Cyrus. Cyrus qui est appelé loin de l'Éternel dans Esaïe, n'est-ce pas? Cyrus qui était annoncé depuis bien du temps déjà. Finalement, Dieu accomplit son dessein et Cyrus devient roi sur Babylone, et alors il va donc permettre à ceux de Juda de retourner à Jérusalem pour y construire la maison de Dieu. On peut souligner, n'est-ce pas, c'est que le mot Jérusalem, maison de Dieu, revient à maintes reprises dans ce premier chapitre d'Esdras, dans la publication de Cyrus aussi. Dieu est reconnu comme le Dieu de Jérusalem. La maison de Dieu est à Jérusalem. La maison de Dieu, pour les Juifs, ne pouvait pas être ailleurs qu'à Jérusalem. Elle ne peut pas être ailleurs qu'à Jérusalem, d'ailleurs même maintenant. Lorsque l'histoire des Juifs sera terminée, donc dans le millénium, la maison de Dieu à ce moment-là sera à Jérusalem aussi, n'est-ce pas ? Et en un certain endroit de Jérusalem, d'ailleurs le mont Moria. C'est là que David avait offert un sacrifice pour arrêter l'ange destructeur sur Jérusalem. Et Dieu avait répondu à son sacrifice en envoyant le feu du ciel pour brûler le sacrifice sur l'autel que David avait établi sur le nerf d'ornant jébusien. Et David, tout effrayé, dit « C'est ici la maison de Dieu ». Et c'est en effet là, sur le mont Moria, sur l'nerf d'ornant jébusien, que décide de construire la maison de Dieu. C'est là que Salomon, on trouverait ça donc dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 3, on trouverait que Salomon a construit la maison de Dieu là, sur le mont Moria, que l'Éternel avait désigné. Je me souviens que dans l'Exode, dans Deutéronome au chapitre 12, il était dit, il y aura un lieu, tu chercheras le lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom. Eh bien, l'Éternel avait choisi Jérusalem, et à Jérusalem, le mont Moria. Et les Israélites ont été fidèles à ce moment-là, Salomon, tout au moins, a été fidèle. À ce moment-là, il a construit la maison de Dieu sur le mont Moria, à l'endroit qu'il était établi. Il l'a construite comme Dieu l'avait montré à David. Dans le texte concernant David et envisageant de construire la maison de Dieu, David peut dire qu'il m'a montré le modèle, il a écrit « La main de Dieu étant sur moi ». C'est Dieu qui donnait non seulement le plan général de la maison, mais encore le détail des ustensiles. On trouverait ça dans le livre des Chroniques aussi, n'est-ce pas ? Tout le détail. Dieu voulait s'occuper entièrement de sa maison. Il ne voulait pas que l'imagination de l'homme s'introduise dans la construction de la maison de Dieu. Il voulait que tout soit de Dieu. Il ne voulait pas que l'homme se mêle de construire quelque chose. L'homme aurait construit un palais à l'imitation des nations. Mais Dieu voulait, lui, sa maison à lui, construite par lui, quoi que ce soit la main des hommes qui s'en charge. Nous voyons facilement le parallèle qu'on peut faire avec la maison de Dieu actuelle. La maison de Dieu, telle qu'on la trouve à plusieurs endroits du Nouveau Testament, n'est-ce pas, dans les Éphésiens, maison de Dieu en esprit, donc elle est édifiée, il n'est pas question que l'homme s'en mêle non plus, n'est-ce pas, il est édifié, vous êtes non plus étranger, mais vous êtes gens de la maison de Dieu. J'ai mis le texte parce que je vais me tromper. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin, et la bonne nouvelle de la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un seul esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble croit pour être un temple saint dans le Seigneur. En qui vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit, un temple saint, une habitation de Dieu par l'Esprit. Vous êtes édifiés. Il n'est pas dit vous édifiez. Ce ne sont pas les hommes qui sont chargés là d'édifier. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. On le retrouve dans Pierre, dans la première de Pierre, au chapitre 2. Il est dit de Jésus qu'il est la pierre vivante, au verset 4. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc édifier une maison spirituelle. une sainte sacrificature pour offrir à Dieu des sacrifices spirituels. C'est Dieu qui le fait. Vous êtes édifiés. Nous approchons d'une pierre vivante, n'est-ce pas? Et à partir de cette pierre vivante, l'édification, la construction se fait. Alors ce qu'on peut remarquer dans les As, c'est que revenu pour reconstruire la maison de Dieu, il place d'abord l'autel. L'autel qui fait monter vers Dieu le parfum des holocaustes, qui fait monter vers Dieu ce que le peuple est conduit à offrir selon l'Écriture. Il faut souligner cela. Il reconstruit l'autel et replace l'autel sur son emplacement. Ils n'ont pas cherché une place plus facile ou ils n'ont pas cherché ailleurs. Remarquons que lorsqu'ils ont été à Babylone, ils n'ont jamais cherché à construire une maison de Dieu à Babylone. Il y a eu des réunions à Babylone, il y a eu des synagogues, ce qui veut dire réunion. C'est vrai que ça signifie réunion. Bon, ils se sont réunis, ils ont étudié la Bible, ils ont étudié la Torah, ils ont parlé du Seigneur, sans doute les fidèles. Ceux qui étaient fidèles et transportés parmi le peuple infidèle dans son ensemble n'ont jamais eu l'idée de construire une maison de Dieu à Babylone. Et même depuis que la maison de Dieu est détruite, par Titus, les Juifs n'ont jamais cherché à construire une maison de Dieu ailleurs. Il n'y a pas d'autre lieu. Il n'y a pas d'autre lieu que Jérusalem et le mont Morija à Jérusalem. Un croyant d'Israël, qu'il soit des tribus ou soit des deux tribus, Israël, Judas et Benjamin, ne peut pas avoir l'idée de construire une maison de Dieu ailleurs. Et ici, le premier geste qu'ils font, ils remettent l'autel sur son emplacement, donc, et puis ils commencent à y offrir. Enfin, ils pourraient y offrir les holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils établissent l'autel sur son emplacement. La terreur des peuples des contrées était sur eux, alors ils veulent satisfaire l'Éternel. Et ils firent le fait des tabernacles selon ce qui est écrit. Et les holocaustes, jour par jour, selon leur nombre, etc., selon l'ordonnance. Nous voyons l'autorité de la loi pour eux, l'autorité de la parole de Dieu. Un lieu et la parole de Dieu qui est là. Et les hommes qui sont revenus pour servir l'Éternel. Des croyants. Croyants, dans, dirais-je, la mesure de l'Ancien Testament. Des croyants. Rien que des hommes habilités à offrir le sacrifice à Dieu. Car si nous lisons un peu avant, je lis donc dans le chapitre 2 d'Esdras, nous voyons que parmi tous ceux qui étaient rentrés, il n'y avait pas des multitudes. Il y en avait, si on tient les chiffres qui sont là, il y avait 49 637. Il n'y avait pas des multitudes. Le peuple était nombreux, enfin tout au moins l'Éternel avait promis au peuple d'être nombreux comme le sable de la mer. Il était nombreux certainement à Babylone. Et pour ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu pour reconstruire sa maison, ben voilà, il était plus poigné. Même pas 50 000. Ils sont remontés. C'est un résidu, un petit reste, un reste d'hommes fidèles. Et puis il y en a d'autres qui sont montés avec eux, et nous voyons que, au verset 59, et voici ceux qui montèrent de Tel-Mena, de Tel-Ara, de Kérub-Adam et d'Imer, mais ils ne purent pas montrer leur maison de père et leur descendance, s'ils étaient d'Israël. Les fils de Néaïa, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 652, les fils des sacrificateurs, les fils de Abaya, les fils d'Akot, les fils de Barzilaï, qui prit une femme d'entre les filles de Barzilaï, le Galadite, et fit appeler de leur nom. Ceux-ci cherchèrent leur inscription généalogique, mais elle ne se trouva pas, et ils furent exclus comme profanes de la sacrificature. Et le Tirshata leur dit qu'ils ne devaient point manger des choses très simples jusqu'à ce que fût suscité un sacrificateur avec les urines et les thumines. Ils n'ont pas pu montrer leur généalogie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu montrer s'ils étaient fils de Lévi d'abord et d'Aaron ensuite pour les sacrificateurs. Ils n'ont pas pu le montrer. Le Tiachata ne leur dit pas qu'ils ne le sont pas. Mais en fait, il leur dit, vous ne pouvez pas le montrer, donc vous ne pouvez pas participer à la sacrificature. Vous ne pouvez pas manger des choses très simples. C'est clair. Peut-être vous êtes des sacrificateurs. On attendra que le sacrificateur avec les urines et les thumines soit venu pour qu'on puisse décider si vous êtes habilité à servir l'Éternel et à manger les sacrifices. Mais en attendant, eh bien, vous ne pouvez pas. Il y a donc un tri qui se fait là. Pourquoi ? Parce que c'est la confusion. Babylone veut dire confusion, d'ailleurs. C'est la confusion. Alors, dans la confusion, les généalogies se sont perdues. Dans le livre des Chroniques, on voit comment les noms étaient relevés, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. N'est-ce pas, nous voyons cela. Mais ici, Jérusalem a été détruite, le temple a été détruit, toutes les maisons ont été rasées. Alors, eh bien là, il n'y a plus rien, plus de souvenirs. Certains ont gardé leur généalogie. Certains pouvaient la montrer, d'autres ne pouvaient pas. Or, pour servir l'Éternel, il fallait être fils d'Aaron pour être sacrificateur, nécessairement. Eh bien, ils n'ont pas pu le montrer. Le Tiefata leur dit, vous ne pouvez pas manger des choses très saintes. Parallèle avec ce qui est de nos jours, nous avons un lieu aussi pour nous rassembler, un lieu sur lequel peut se rassembler ce qui forme la maison de Dieu maintenant, qui est l'assemblée du Dieu vivant. Un lieu, c'est le nom du Seigneur. Lorsque nous sommes assemblés au nom du Seigneur, sa présence est là, et c'est la maison de Dieu en esprit, n'est-ce pas, sa présence est là. Et nous participons donc à cet autel où s'offrent les sacrifices, lorsque nous sommes le dimanche autour de la table du Seigneur, et que nous partageons le pain et le vin, c'est le rappel de sa mort, le sacrifice parfait, le sacrifice qui rassemble tous les sacrifices de l'Ancien Testament. L'Holocauste parfait en particulier, n'est-ce pas? Et puis, eh bien oui, mais qui va participer, là? Ceux qui peuvent montrer leur généalogie. Ce n'est pas question d'accepter n'importe qui, c'est pas possible. Ceux qui peuvent montrer leur généalogie, c'est-à-dire qu'ils sont nés de Dieu, nés de nouveau. Nés de nouveau et, comment dirais-je, connaissant Jésus d'une certaine manière, telle qu'il est donnée dans les Éphésiens, lorsqu'il est dit. L'évangile, parler du Seigneur, l'évangile de votre salut. Vous avez cru. L'évangile de votre salut, la parole de la vérité, hein, et auquel ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse qui est les armes à notre héritage. L'évangile, la bonne nouvelle. Jésus-Christ connu par l'évangile. La bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle, n'oublions pas. La bonne nouvelle de votre salut. Un salut parfait. Quelqu'un qui n'est pas sûr de son salut n'a pas sa place à la table du Seigneur. C'est peut-être un homme travaillé dans sa conscience et son cœur, un homme, on peut dire peut-être même aussi un enfant de Dieu, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque de connaître Jésus et son œuvre telle qu'elle a été accomplie. Si c'est une bonne nouvelle, ce salut, c'est parce que c'est un salut parfait. Je sais que je suis sauvé, je suis sûr d'être sauvé. On dit parfois que c'est la prétention. Ce qui serait de la prétention, c'est de prétendre que ce que Dieu dit est faux. Tandis que Dieu dit que je suis sauvé par le sacrifice du Seigneur Jésus, mais je crois au sacrifice du Seigneur Jésus, donc je suis sauvé. Donc je peux approcher de Dieu en toute liberté. Ceux qui ont cette certitude reçoivent le Saint-Esprit, reçoivent l'esprit d'adoption et peuvent dire à Dieu, Abba Père, Abba, ça veut dire papa. C'est un signe d'intimité. Mais s'il n'y a pas cette certitude, Dieu reste un juge. Et comment adorer un juge? Un juge, c'est fait pour condamner. Et si je viens devant Dieu sans savoir, sans avoir cette certitude d'être sauvé, je vais être dans la crainte. Comme Adam, lorsque l'Éternel est venu le visiter, il dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Et pourquoi tu as eu peur? Ah, il y avait péché. Il avait péché, bien sûr. Il avait péché, et si nous sommes encore dans nos péchés, il est évident que nous avons peur de Dieu. Nous n'oserons pas nous approcher. Et Christ est mort pour nos péchés, et il est ressuscité pour notre justification. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Alors cette bonne nouvelle, si je la crois, me donne toute liberté, me donne toute certitude. Et nous devons prendre garde pour que ceux qui s'approchent de la table aient cette certitude. Qui manifesteraient en quelque sorte qu'ils sont scellés de l'Esprit, du Saint-Esprit de la promesse. Le sceau d'Esprit, ce qui marque le croyant, c'est ce sceau d'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit donné comme un sceau, une marque de Dieu, de façon à distinguer les autres. Nous avons une image de cela dans Ézéchiel, lorsque l'Éternel va détruire Jérusalem. On voit des anges qui s'approchent, donc, et l'un qui a un encrier d'écrivain à la ceinture, et il lui a ordonné, avant que la destruction intervienne, il lui a ordonné de marquer ceux qui soupirent dans la ville à cause des idoles, ceux qui se lamentent, ceux qui pleurent à cause des idoles, il faut les marquer tout droit au front. Et ceux-là sont épargnés. Eh bien voilà. Voilà le sceau. le sceau qui marque le croyant. L'esprit qui vient demeurer dans le croyant, c'est le sceau. Dieu les marque par ce sceau. Il leur donne le Saint-Esprit demeurant en eux. Voilà. Et à partir de là, ils sont distingués du reste des hommes. Distingués du reste des hommes, et le reste des hommes peut être très religieux, très, avec beaucoup de manifestations religieuses, mais s'ils n'ont pas cru la parole de la vérité, l'évangile de leur salut, toutes les manifestations religieuses leur servent à rien, strictement à rien. Il faut nécessairement passer par Christ. Alors ceux-là sont certains, leur salut s'approche avec joie de Dieu, entoure la table du Seigneur en pouvant glorifier Dieu parce qu'ils savent qu'ils sont sauvés et pourquoi ils sont sauvés. Nous devons prendre garde à cela, je crois. Parce que on arrive quelquefois à un certain relâchement, et puis on dit, oh ben, oui, on le connaît bien, on le connaît dès l'enfance, il s'est bien conduit, il est bien brave, il est capable de répondre aux questions. Il est évident, que quelqu'un qui a été élevé dans l'Assemblée, il est bien capable de répondre aux questions. Seulement, voilà. Il faut la réalité du cœur. Alors il faut voir, ici on ne voyait pas la généalogie, il faut voir celui qui a la foi. La foi se voit. La foi, c'est la foi en quelque chose d'invisible, mais la foi elle-même se voit dans la vie du croyant. Et si nous ne voyons pas manifestation de la vie divine dans un homme, nous ne pouvons pas dire qu'il est croyant. On dira, non, c'est rien, bien sûr. Il est écrit même dans Timothée que le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Sans doute. Le Seigneur les connaît. Mais quant à nous qui entourons la table qui est un témoignage, nous devons faire comme ceux-là qui entouraient l'autel de l'Éternel à Jérusalem, distingués. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter de but en blanc quelqu'un qui se dit chrétien. Nous pourrons même peut-être, c'est pas après une conversation d'une demi-heure non plus, on peut accepter quelqu'un, mais ça, il faut quand même le voir, on peut le voir marcher un peu, n'est-ce pas ? Ce qui supprime donc tout ce qu'on peut dire sur les admissions occasionnelles, n'est-ce pas ? Voilà. Nous sommes là, nous avons besoin de savoir si ceux avec lesquels nous sommes autour de la table du Seigneur sont des croyants nés de nouveau, étant scellés de l'Esprit, avec toute certitude de salut, avec la capacité de rendre grâce, louer le Seigneur. Louer le Seigneur, ce n'est pas seulement des paroles. Chanter un cantique, n'est-ce pas ? Tout le monde peut le chanter. Non, c'est pas ça. C'est le cœur qui chante. Chantez de vos cœurs, dans vos cœurs, il est dit dans les Éphésiens, chapitre 5, n'est-ce pas ? Chantez dans vos cœurs. C'est le cœur qui chante. Je reviens donc à Esdras, il y a toujours le sens tiré de l'Ancien Testament, parce que ces choses sont écrites pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Alors ils avaient donc rétabli le culte de l'Éternel. Ils avaient rétabli, et puis voici qu'il y a donc des dictats en quelque sorte du fondement, les fondements sont posés, alors ils se réjouissent. Ils se réjouissent, ils chantent ce que l'Éternel leur demandait de chanter, au verset 11. Ils s'entre-répondaient en louant et en célébrant l'Éternel, car il est bon, car sa bonté envers Israël demeure à toujours, et tout le peuple était joyeux, mais il y en avait qui pleuraient, les vieillards. Ceux qui se souvenaient de la première maison pleuraient. Les plus jeunes, la jeune génération, ont manifesté sa joie. Et les deux choses sont comprises ainsi, elles étaient tout à fait à leur place. Les vieillards se souvenaient de la maison de Salomon. La splendeur de la maison de Salomon. Et voilà, le peuple avait péché, la maison de Salomon avait été détruite, et eux-mêmes étaient revenus dans une ville en ruine, et devant une maison qu'il fallait reconstruire, ils n'avaient pas les moyens de se rendre, il s'en fallait beaucoup. Mais les plus jeunes avaient la joie, poussaient des cris de joie, parce qu'un témoignage recommençait à se placer là, à Jérusalem. Il y avait à nouveau un témoignage pour l'Éternel. Eh bien, on peut faire le rapprochement, bien sûr, avec l'histoire de l'Assemblée, de l'Église, disons, enfin de l'Assemblée en général. Au début, nous voyons l'Assemblée de sa splendeur dans les actes. Nous voyons l'Esprit agir avec puissance dans les actes. Au début des actes, nous voyons que les croyants étaient un cœur et une âme. Chapitre 4 des actes, comme ici, ils se sont levés comme un seul homme. Nous voyons cela des actes. Nous voyons la puissance de l'Esprit agir par la prédication, agir par les miracles qui se faisaient. Voyons cela, oui. Et puis après. Jusqu'à la fin des actes, c'est encore Il y a encore une puissance de l'esprit qui se manifeste, mais l'apôtre Paul peut avertir, disant, je sais qu'après mon départ, il viendra des loups redoutables, qui n'épargneront pas le troupeau. Il se lèvera d'entre vous-mêmes, des hommes aux doctrines perverses, qui pourra tirer des disciples après eux. Alors ce sera la décadence. Ce sera la décadence et c'est la décadence. Et nous ne pouvons plus trouver maintenant les croyants assemblés comme un seul homme, un cœur et une âme. Or, c'était là le témoignage, cette unité du corps, c'était là le témoignage. Eh bien, le témoignage était manqué. Comme pour Israël, le témoignage était perdu. Et ça a duré des siècles, chaque docteur tirait après lui ses disciples. Nous savons combien l'Église a pu exister, n'est-ce pas, les catholiques en premier lieu, puis après les orthodoxes, puis après les luthériens, puis après les calvinistes, puis après ceci, puis après cela, puis après cela. N'est-ce pas, nous trouvons une quantité infinie d'Églises. Chaque homme un peu capable de prêcher, chaque homme qui avait quelques connaissances tirait des disciples après lui, et chacun faisait un groupe, et chacun avait sa propre religion. Dieu l'a permis. Voilà. Et puis, au siècle dernier, nous savons toutes ces choses, la conscience de plusieurs ont été réveillées. Réveillées à ce fait que, en quelque sorte, le Seigneur avait été mis de côté dans tous ces groupements. Que ce soit l'église anglicane ou l'Élarbi, que ce soit des églises de ceci ou de cela, en fait, c'est l'homme qui avait remplacé le Seigneur. Mais fais-nous un Dieu qui marche devant nous, disait le peuple à Sinaï. Ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Eh bien, c'est pareil. Les chrétiens ont dit, oh, il nous faut un homme devant nous. Il faut organiser les choses, il nous faut un homme. Comment pourrait-on continuer de vivre en assemblée, en communauté, s'il n'y a pas un homme qui commande, un homme ou deux ou trois hommes, mais un homme, un comité, un conseil, possible. Le Saint-Esprit, alors. Le Saint-Esprit n'était pas capable de diriger. Le Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu le Saint-Esprit, présent au milieu de son assemblée, présent dans le croyant et présent dans l'assemblée, n'était pas capable de diriger. Bien sûr qu'il n'était pas capable. Et il dirigeait, et il dirigerait, il aurait dirigé par l'Écriture. C'est l'Écriture qu'on ne voulait plus. On ne voulait plus de l'Écriture. On aimait mieux les doctrines qui étaient annoncées, doctrines nouvelles, doctrines modernes. Déjà, il était venu le temps qu'on trouve dans Timothée, il viendra un temps où ils s'amasseront, ils auront les oreilles qui leur démangent, n'est-ce pas, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. Eh bien oui, on s'est amassé des docteurs, etc. Alors, des hommes ont été réveillés. Des hommes ont été réveillés par l'Esprit de Dieu. Ils ont voulu se réunir ensemble, mais ils étaient de différents milieux. Alors, il fallait sortir. Il fallait sortir de ces milieux pour se retrouver ensemble. Il fallait d'abord se séparer pour se réunir. Ça peut paraître sembler paradoxal, mais il le fallait. Il fallait se séparer, on ne pouvait pas réunir tous les groupes qu'il y avait, mais il fallait se séparer pour se réunir. C'est bien simple. Je connais moi-même un exemple de la chose, plutôt un exemple contraire, on peut dire. Il y a eu, je pense que ça existe toujours, mais il y a 40 ou 50 ans, il y avait chaque année une réunion à Lausanne des chrétiens évangéliques de différents milieux. Ils se réunissaient pendant une semaine, le soir, pour prier pour l'unité. Et ça se passait très bien. Ils étaient tous là, des gens sérieux, des croyants, sans doute la plupart, et ils priaient avec sincérité pour l'unité. Et le dimanche? Eh bien le dimanche, chacun retournait dans sa secte. Et l'unité n'a pas avancé d'un pas, bien sûr. Ils s'étaient séparés suffisamment de temps pour prier ensemble, et après, ils ont retourné chacun dans leur lieu. Alors, pas d'unité. Pas d'unité. N'est-ce pas, il me semble que c'est typique. Alors que les frères du réveil, eux, se sont séparés aussi. Mais ils sont restés ensemble. Ils sont restés ensemble parce qu'ils avaient trouvé un centre de rassemblement. Jésus, qui a promis sa présence aux deux ou trois assemblés à son nom. Ils étaient pas guère plus de deux ou trois, tout au moins en Angleterre. C'est un mouvement qui a eu lieu un peu partout, et en Angleterre, c'était cinq les premiers. Assemblés au nom du Seigneur. Jouissant de sa présence, parce que le Seigneur a promis sa présence, il ne peut pas mentir. Il a promis sa présence aux deux ou trois assemblés à son nom. Des hommes qui, les croyants qui viennent là pour son nom. Pas pour le nom d'un Luther ou d'un Calvin ou d'un pape quelconque, non, mais pour le nom du Seigneur. Ils viennent là pour servir son nom, pour attirer par son nom. qui a rassemblé à son nom le A en question, en grec, ce qui marque un déplacement, marque une attirance. Ils ont assemblé à son nom. Oui, voilà. Et ils se sont trouvés unis dans la même communion. Le Seigneur ayant promis sa présence, le Seigneur était là. Il faut croire aux promesses du Seigneur. Il n'a pas eu besoin de nommer quelqu'un pour marcher à la tête. Le Saint-Esprit était là, tout prêt à les conduire. La parole de Dieu était là, tout prêt à les enseigner. Bien, c'est toujours comme ça. Si nous le voulons, c'est toujours comme ça. Ce sont les quelques principes du rassemblement. Des croyants réunis au nom du Seigneur, sous l'autorité de la parole de Dieu, conduits par le Saint-Esprit. Il faut ces quatre choses. Si on en retire une, on n'a plus tout à fait les principes du rassemblement, selon la parole. Il est nécessaire que ce soit des croyants. Il est nécessaire que ce soit au nom du Seigneur, pour jouir de la présence du Seigneur. Les frères d'Arby disaient, mais si le Seigneur n'avait pas promis sa présence, c'est inutile que j'y aille. Bien sûr, le Seigneur a promis sa présence aux deux ou trois. Bon, présence du Seigneur, autorité d'écriture, et pas l'autorité d'un homme, même si c'est un grand théologien, ça, l'autorité de l'écriture. Car chacun des enfants de Dieu est capable de comprendre l'écriture s'il se laisse conduire par le Saint-Esprit, s'il aborde l'écriture avec simplicité, et non pas en voulant savoir à l'avance ce que Dieu ne nous a pas encore révélé. Lisons l'écriture comme ça à suivre. Et puis, il y a des choses difficiles, sans doute, si on les aborde pour la première fois, passons par-dessus. Bon, mais c'est la nourriture du croyant, c'est la nourriture de l'âme, l'écriture. On ne peut pas être nourri par quelqu'un qui parle. Il faut que celui qui parle ramène à l'écriture. Alors, c'est l'écriture qui est la nourriture, n'est-ce pas ? Eh bien, ils se sont laissés conduire par l'écriture. L'esprit agissant dans cette assemblée, ce qui suppose donc qu'on n'a pas remplacé le Saint-Esprit par un homme. Voilà les quatre principes du rassemblement. Mais l'écriture va nous conduire dans les chemins qui ne nous plaisent pas toujours. On voudrait bien être gentil avec tout le monde. Par exemple, l'écriture nous montre maintes exemples où il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et alors, on est plus gentil avec tout le monde. Et bien pourtant, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ainsi, nous pouvons être sur le vrai terrain, comme les Juifs là étaient sur le vrai terrain que l'Éternel avait désigné, avait choisi. Et ils ont construit la maison de Dieu. Plus loin, nous verrons que ça n'a pas duré. Ils se sont lassés. Et c'est bien ce qui risque de nous arriver, et nous devons être attentifs à cela, ça. On voit comme les ennemis, d'abord au verset au chapitre 4, les ennemis de Judas et de Benjamin entendent dire que les fils de la transportation bâtissaient le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils s'approchèrent de Zorobabel et les chefs d'Israël et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car nous recherchons votre Dieu comme vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis les jours d'Elsar, Adon, le roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Et Zorobabel et Jeshua et le reste des chefs des pères d'Israël leur dirent, vous n'avez pas affaire avec nous pour bâtir une maison à notre Dieu, mais nous seuls nous bâtirons à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a commandé le roi Cyrus, le roi de Perse. Alors le peuple du pays rendit lâche les mains du peuple de Juda. Et nous voyons verset 34, alors le travail de la maison de Dieu qui est à Jérusalem cessa et fut arrêté jusqu'à la seconde année du règne de Darius. D'abord, déjà, une tentative d'immixion des nations environnantes, qui étaient des nations idolâtres, quoi. Peut-être pas tout à fait idolâtres, ce que Nebuchadnezzar a fait monter, le roi Nebuchadnezzar, nous sommes là depuis le roi d'Assyrie et de Saradon. Alors, ils avaient bien admis quelques vérités concernant l'Éternel. Toutefois, non, c'était pas le peuple de l'Éternel. C'était pas le peuple. Et ils veulent se mêler. Ils veulent se mêler, et nous voyons l'énergie des chefs de Juda. Vous n'avez rien à faire avec nous dans cette affaire. Séparation. Séparation d'avec le monde. Si nous ne marchons pas dans la séparation avec le monde, nous n'aurons jamais de puissance pour servir le Seigneur. C'est indispensable. Individuellement, en famille, collectivement, en assemblée, nous devons marcher dans la séparation avec le monde. Séparation avec le monde, c'est la séparation avec les idées du monde. avec ce que le monde estime bon, avec ce que le monde estime devoir être fait, avec l'organisation du monde, avec, que sais-je moi, ça se peut se présenter sous bien des formes. On arriverait à penser que la mondanité, c'est seulement le fait de s'habiller à la mode, ou bien le fait d'écouter la radio. Bon, je ne suis pas pour la radio du tout, je ne l'ai pas d'ailleurs, mais enfin voilà. N'est-ce pas, c'est pas ça. C'est, la mondanité, c'est une façon de penser, la même façon de penser que le monde. Et le monde s'impose à nous. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas ôtés du monde. Alors il y a une pression du monde sur nos esprits. Et nous devons faire un effort pour nous en dégager. Nous nous en dégagerons par l'écriture, pas autrement. L'écriture, c'est la pensée de Dieu, c'est pas la pensée du monde. Comment résister au fait qu'en réfléchissant, on se dit oh, nous sommes deux ou trois croyants ici. Il y en a à côté dans les salles qui sont bien plus nombreux, qui sont à 30, ou oh, j'aime bien un peu de doctrine différente. Enfin, on pourrait bien marcher ensemble. Eh bien non. La parole de Dieu nous dit non. Il nous dit deux ou trois assemblés au nom du Seigneur. Nous ne sommes que deux ou trois, restons deux ou trois. Nous sommes, plutôt que d'aller dans une salle voisine où il y aura 20 ou 30 ou 200 ou 300 et qui ne marchent pas selon exactement la pensée du monde. On me disait un jour à la sortie d'une réunion, mais vous parlez du jour du rassemblement, j'ai vu des chrétiens, des communautés chrétiennes qui se réunissent presque comme nous. Et oui, voilà. C'est le presque qui fait la différence. Presque comme nous, oui. Presque comme nous. Ceux de Samarie avaient aussi érigé un temple. Presque comme celui de Jérusalem. Il ne nous faut pas le presque. Il nous faut la réalité. Pas un approchant, pas quelque chose d'approchant. Il faut que le rassemblement des deux ou trois autour du Seigneur soit un rassemblement soumis à l'Écriture, conduit par le Saint-Esprit. On a déjà bien trop tendance à se confier aux hommes. Même parmi nous, bien entendu, reconnaissons-le. Il y a des gens qui parlent mieux que d'autres, et on arrive à leur laisser tout faire. Et on a tort. Chacun est responsable dans un rassemblement de frères. Mais on aime se décharger sur d'autres, n'est-ce pas ? Il y a une difficulté dans une assemblée, on ne sait pas trop comment la résoudre, on va faire venir un docteur qui viendra de l'autre côté de la France. Et puis pourquoi ? Un docteur, c'est pour enseigner. Dieu a donné à l'assemblée locale ce qui était nécessaire pour résoudre les difficultés. Dieu a donné les charges. Dieu a donné, par le fait qu'on voit dans les Corinthiens, le frère qui a la parole de sagesse, le frère qui a la parole de connaissance. Bien, il l'a donné à Corinthe. À Corinthe, il y avait donc de quoi résoudre les questions. Alors, pourquoi faire venir de Corinthe ? Pourquoi alors peut-être faire venir quelqu'un d'Éphèse ou quelqu'un d'ailleurs ? L'assemblée doit se prendre en charge, on peut dire, si c'est une assemblée adulte, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas une assemblée adulte. Eh bien, elle doit se prendre en charge. Et quand les difficultés surviennent, il faut que les frères de l'assemblée locale les résolvent eux-mêmes. Ils ont à chercher la solution auprès du Seigneur. Et s'ils sont exercés, le Seigneur leur donnera la solution. Plutôt que de se reposer sur un homme qui viendra de l'autre côté du pays et qui ne connaîtra rien de l'ambiance, de l'atmosphère de l'assemblée. Car dans une assemblée, il y a une ambiance, une atmosphère qu'on ne peut pas décrire. On ne peut pas parler aux autres en disant « Voici dans notre assemblée, on sent ceci, on sent cela, etc. Il y a ceci, on dit cela. » Ça tombe toujours à côté de la plaque, parce que ce ne sont jamais des « on dit ». Et quand on a vécu dans l'assemblée, on sent bien si l'esprit est libre ou si l'esprit n'est pas libre. Comment le raconter aux autres, ça, n'est-ce pas ? Alors ce sont ceux de l'assemblée locale qui doivent régler leurs problèmes. Sans aller chercher ailleurs des gens qui sont des frères, qui sont très instruits, qui sont très capables de transmettre leur instruction, mais qui sont des docteurs. Et plutôt, il faut faire des réunions et enseigner l'assemblée, certes, bien sûr. Seulement, pour régler les questions locales, les frères de l'assemblée locale sont les premiers responsables. Ici donc, nous avons les chefs des Juifs ont résisté à cette tentation qu'on leur présentait de s'adjoindre des hommes des nations qui les entouraient. Et ils ont eu raison, bien sûr. Ils ont eu raison. Marchons dans la simplicité, marchons dans la séparation que l'Écriture nous montre. Et puis, alors, il y aura une certaine puissance qui se manifestera. Mais ici, alors, ils sont découragés. Mais nous arrivons à notre période, notre portion de cette période, les prophètes âgés, le prophète Zacharie, fils d'Ido, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Jéchua, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu qui est à Jérusalem, et avec eux les prophètes de Dieu qui les assistaient. Alors en ce temps, Tatnaï, etc., on essaye encore de les arrêter, mais nous voyons au verset 5, et l'œil de leur Dieu était sur les anciens des Juifs, et ils ne les firent pas cesser jusqu'à ce que l'affaire parvint à Darius. Et alors ils répondirent par la lettre sur toi. Dieu ne voulait pas laisser ce résidu de son peuple, ne voulait pas le laisser sans secours. Il voit bien qu'ils se sont découragés. Voilà. Alors il envoie les prophètes. Et c'est remarquable. Il faut lire quelques versets dans Agée. Dans Agée, l'Éternel montre sa pensée à l'égard de ce travail qu'il contient. Agée, niveau chapitre 1er, verset 2. Ainsi par l'Éternel des armées, disant ce peuple dit. Le temps n'est pas venu, le temps de la maison d'Éternel pour la bâtir. Et la parole de l'Éternel vint à Agée le prophète, disant, est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée? Et maintenant, ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies. Vous avez semé beaucoup, vous rentrez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, mais vous n'en avez pas assez. Vous vêtez, mais personne n'a chaud. Et celui qui travaille pour des gages, travaille pour les mettre dans une bourse douée. Ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies. Montez à la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, et j'y prendrai plaisir, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous attendiez beaucoup, voici ce n'a été que toi. Et vous l'avez apporté à la maison, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi dit l'Éternel des armées? C'est à cause de ma maison qui est dévastée. Voyons donc ce que Dieu pensait de cette construction qui était en train de se faire. Ils s'étaient découragés. C'était découragé et l'Éternel va les réveiller. D'abord, il attire l'attention non pas sur des ennemis. Les ennemis, ça avait de l'importance, les ennemis. Les ennemis, si Dieu marche avec le peuple, les ennemis n'ont aucune puissance. C'est ça. Le peuple a vaincu avec très peu d'hommes, Gédéon par exemple, a vaincu de grandes armées. Hein. Alors, les ennemis, inutile d'en parler, c'est ce qui fait peur au peuple. C'est quelquefois ce qui nous fait peur aussi, et pourtant, si le Seigneur est avec nous, les ennemis sont tenus loin. Mais ce sur quoi l'Éternel attire leur attention, c'est que vous lambrissez vos maisons à vous. Vous vous occupez de vos maisons, et vous ne vous occupez pas de ma maison. Voilà ce que l'Éternel leur reproche. Chacun s'occupait de ses propres intérêts, de sa propre maison. Transposant ça sur le plan de la chrétienté, chacun s'occupe de sa propre maison, de sa propre secte, de son propre groupe, de son propre communauté. Et on ne s'occupe plus de la maison de Dieu, de la maison de l'Éternel ici, la maison de Dieu. Alors c'est ce que l'Éternel reproche par Agée le prophète, c'est sur quoi il attire leur attention. Ils auraient pu dire, bon mais les ennemis sont trop puissants pour nous, on va être écrasés. Oh non, Dieu dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est parce que vos cœurs sont occupés de vos maisons et ne sont plus occupés de ma maison. Voilà la réalité. Peut-être sommes-nous découragés aussi dans la cité. Eh bien, voyons la réalité. Nous nous sommes occupés de nos propres affaires, de nos maisons plutôt que de la maison de Dieu. Nous avons négligé la maison de Dieu. Et il fallait s'occuper de la maison de Dieu en premier. Comment est honoré le Seigneur? Il est honoré. Considérez bien vos voies, c'est verset 7, montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, et j'y prendrai plaisir et je serai glorifié, l'Éternel. Bâtissez la maison et je serai glorifié. Bâtissons l'assemblée, enfin construisons maintenant l'assemblée, et Dieu sera glorifié, le Seigneur sera glorifié. Il y avait beaucoup d'activités. Activités, pas forcément mauvaises. Vous avez semé beaucoup pour rentrer peu. Vous mangez, vous êtes rassasié, etc. Beaucoup d'activités. On peut avoir beaucoup d'activités, et pas d'activités condamnables. Il faut bien semer, il faut bien aussi manger, il faut bien se nourrir, n'est-ce pas? Il faut bien vivre avec ce que Dieu nous donne sur la terre. Si on transpose un christianisme, bon, il faut l'activité aussi, il faut bien semer. Il faut bien semer, il faut bien distribuer les traités, il faut bien aussi parler du Seigneur autour de nous. Il faut bien, ici, ils se sont agités beaucoup, et puis ils en rentrent peu. C'est bien ce qui nous arrive parfois. On a beau essayer de traiter, il n'y a pas de conversion. On a beau parler du Seigneur à droite à gauche, et puis personne ne s'intéresse. Mais ici, Dieu leur dit, mais vous négligez ma maison. Alors, bon, puisque vous négligez ma maison, n'est-ce pas, pourquoi dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est dévastée, et on pourrait chacun sa maison. C'est pourquoi au-dessus de vous, les cieux ont retenu la rosée, et la terre a retenu son produit, et j'ai appelé une sécheresse sur la terre, et sur les montagnes, et sur le blé, et sur le mou, et sur l'huile, et sur ce que le sol rapporte, et sur les hommes, et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. C'est peut-être ce qui arrive dans la qualité de vous. Beaucoup d'activité, qui n'est pas mauvaise en soi, mais une négligence de la maison de Dieu. On s'en occupe plus. Et alors, eh bien, alors, pas de résultat. Parce que ce n'est pas ce qui glorifie Dieu, l'activité. Ce qui glorifie Dieu, c'est de construire la maison. Et nous devons, quand même, je pense, prendre garde à cela. Ici, âgé, il y a au centre à son peuple, n'est-ce pas, considérez bien vos voies. Il nous faut considérer bien nos voies. Pour voir si nous avons toujours le désir de voir l'Assemblée de Dieu, ce qui reste de l'Assemblée comme témoignage, maintenu, fortifié, encouragé, consolé. Il faut considérer nos voies. Ce n'est pas l'activité, même une activité bonne, ne doit pas remplacer le cœur tourné vers ce qui est le plus cher au Seigneur, l'Assemblée. Car, Paul peut dire dans les Galates, n'est-ce pas que Christ m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Et dans les Éphésiens, Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. C'est la même forme, c'est le même amour. Le même amour que dont je jouis moi-même individuellement, le même amour dans l'Assemblée, dont nous jouissons collectivement en Assemblée. Et nous devons prendre garde à cela. Christ a aimé l'Assemblée, s'est livré lui-même pour elle. Il la nourrit, il la chérit. Il ne la nourrit pas de force. Il faut bien recevoir la nourriture. Au certes, c'est certain, il va se la présenter à lui-même, sans tache ni ride, ni rien de semblable, n'est-ce pas, mais glorieuse. Lui, il accomplira son dessein, bien sûr. Mais Jérusalem aussi sera reconstruite à la fin du temps. Jérusalem aussi, le temple, la maison de Dieu à Jérusalem sera construit. La gloire reviendra. On voit ça dans Ézéchiel. La gloire qui est partie après la destruction, au moment de la destruction, avant la destruction, par les païens, et la gloire reviendra. À la fin, pendant le millénium, c'est le Seigneur qui le fera. C'est les Juifs qui le feront, n'est-ce pas? Et bien, nous aussi, nous savons que l'Assemblée de Dieu, le Seigneur se la présentera lui-même sans tâche ni rien de semblable. Mais pour le moment, nous sommes chargés. Nous pouvons dire, mais je pense que nous connaissons bien ce passage de la première aux Corinthiens au chapitre 3, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre édifie dessus. Et que chacun considère comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître parce qu'il est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun, le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qui aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte. De quoi, lui-même, il sera sauvé, toutefois comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, nous sommes le temple de Dieu et le Dieu habite en nous. Mais nous sommes quand même chargés de construire, d'édifier. C'est le côté de l'homme. Nous voyons dans Éphésiens le côté de Dieu. Là, c'est édifié. L'édification se fait toute seule. Nous voyons le côté du Seigneur, par exemple, dans Matthieu, lorsqu'il dit sur ce roc, tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Ça, c'est Dieu. C'est le Seigneur. Le Seigneur construit, lui, quelque chose de solide, quelque chose qui va se présenter à lui-même. Et bien en attendant, c'est le témoignage rendu sur la terre. Nous sommes chargés de construire avec des pierres qui valent la peine. C'est-à-dire de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Donc l'or parle de la justice de Dieu. Nous savons que l'argent parle de rédemption. Nous savons que les pierres précieuses doivent parler de la gloire du Seigneur. Voilà ce qu'il faut amener. Et ceux qui sont amenés là doivent au moins saisir ces choses, doivent au moins pouvoir, comment dirais-je, être au bénéfice de ces choses. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est justifié devant Dieu par le Seigneur Jésus, par la foi au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il ne peut que prier Dieu de le sauver. C'est tout. Et c'est pas la place. C'est pas la place sur la table du Seigneur de prier Dieu d'être sauvé. La table du Seigneur est pour ceux qui sont sauvés. Alors, parler des gloires du Seigneur, quelqu'un ne connaît pas le Seigneur en tant que sauveur, comment parlera-t-il de ses gloires? Nous devons prendre garde à cela, n'est-ce pas? Je pense que nous sommes peut-être plus assez étroits pour dire le mot. Craignons pas d'être étroits, hein. Parce que si nous lisons l'histoire d'Israël et du résidu qui est revenu, qu'est-ce que l'on voit dans Ezra, ce que l'on voit dans Néhémie? Justement, toujours la tendance à élargir, toujours la tendance à recevoir ce qui est autour, toujours la tendance à se lier. Voyons la question des mariages dans Néhémie, par exemple, dans Esdras, déjà, n'est-ce pas, toujours, puis finalement, c'est lamentable, mais le dernier chapitre de Néhémie, un sacrificateur avait amené l'ennemi jusque dans cet endroit. Alors, nous devons être stricts quant à la parole, nous devons suivre le chemin étroit, puisque le Seigneur nous a parlé d'un chemin étroit. Et c'est celui-là. Et le chemin étroit, il n'est pas difficile de marcher sur un chemin étroit. C'est une idée qu'on se fait que c'est difficile. C'est pas difficile. Il n'est pas dit que c'est un chemin qui monte, un chemin caillouteux, enfin non. Il est seulement le chemin étroit, il faut regarder dans les pieds. Simplement. On en sort facilement. On peut mettre le pied à droite ou le pied à gauche. Eh bien, le chemin étroit, il s'agit de le suivre. Il faut regarder avec soin où l'on met les pieds, justement. Le Seigneur nous appelle à marcher sur ce chemin-là. Et nous construirons quelque chose qui sera à la gloire du Seigneur. Et nous aurons la récompense qu'il promet à ceux qui bâtissent comme il convient, c'est-à-dire qui bâtissent selon sa volonté à lui. L'autre qui bâtit avec sa propre volonté, je vois du fameux chaume, on peut faire de très grandes choses, on peut faire de très belles chaumières. Moi j'en ai vu des magnifiques en Normandie. Oui, c'est couvert de chaume. Bien sûr, c'est une chaumière, c'est couvert de chaume. Mais ce sont des palais. Et puis, le feu là-dedans, ben, ça brûle. Et voilà ce qui arrive à des choses qui peuvent être grandioses, mais qui seront jugées au feu du Seigneur. Ou celui qui l'a fait est sauvé. C'est un croyant. C'est un croyant. C'est un croyant, il est sauvé. Lui-même, il sera sauvé. Toutefois comme à travers le feu. Sans rien. Peut-être un homme qui aura eu grande apparence quant à son christianisme, peut-être qui aura fait de grandes choses, et puis qui est sauvé comme au travers du feu. Quand une maison brûle, qu'on tire quelqu'un dedans, on le met tout nu sur la rue, et puis voilà, tout ce qu'il avait amassé, tout ce qu'il avait passé sa vie à amasser, tout ça disparaît en fumée. Il est bien possible, hélas, qu'il y ait des services qui ont eu de l'apparence, et puis qui, au jour du Seigneur, apparaîtront comme pas grand-chose, quoi, n'est-ce pas? Alors, il nous faut être réveillés, je crois. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps difficiles, et il nous faut tenir la vérité. L'ennemi attaque sans cesse. Il attaque. Il attaque de façon, comme il est dit dans les Éphésiens, n'est-ce pas? Je dis ça pour terminer. Dans les Éphésiens, il dit, quant à l'ennemi, nous pensons toujours qu'on peut voir l'ennemi comme un lion rugissant, mais dans les Éphésiens, il est présenté autrement. Et c'est celui auquel nous avons affaire actuellement. Nous ne sommes pas persécutés. Nous n'avons pas de position violente, n'est-ce pas? On fait ce qu'on veut. Mais dans cette situation, les Éphésiens, verset 10, au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister, après avoir tout surmonté. Au mauvais jour, nous sommes au mauvais jour. Et nous avons affaire aux artifices. L'artifice, c'est quelque chose qui trompe. C'est le diable qui se présente de belle peste. Il est là, derrière les hommes qui veulent aussi introduire des doctrines que nous devons percevoir, comme ça. Et alors, voilà, il est là derrière. Il est là pour diviser, c'est le diviseur. Il est appelé ainsi dans l'Apocalypse. C'est le calomniateur. Nous sommes à prendre garde, n'est-ce pas, de nos jours, dans le monde, on nie l'existence du diable, même parmi les chrétiens. Enfin, tout au moins les soi-disant chrétiens, l'existence du diable. Comme on nie les peines éternelles. Et nous sommes obligés de rétablir la vérité, d'affirmer que le diable existe. Le diable existe et il agit. Et ces anges sont les démons qui sont en activité contre nous, n'est-ce pas ? Et les plus éternelles existent. Elles existent bel et bien. Dieu le dit. Ce que Dieu dit est la vérité. Ce que les hommes disent ou ce que les théologiens inventent, c'est le mensonge. La vérité, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Et donc nous devons nous en tenir à la parole de Dieu. Et alors, pour revenir à ce qui était dès le commencement, nous trouvons cela à plusieurs reprises. L'épître de Jean, par exemple, n'est-ce pas, apporte ce qui était dès le commencement. C'est toujours ça, c'est toujours revenir à ce qui était dès le commencement. Nous avons vu dans Esdras, ils sont revenus à ce qui était au commencement, le lieu, n'est-ce pas, l'autel, les holocaustes, la fête des tabernacles. Bon, c'était ce qui était au commencement. C'est Moïse qui l'avait établi au commencement. Et nous devons revenir à ce qui était dès le commencement. Quant à l'assemblée, quant au principe du rassemblement, nous nous écartons de ce qui était du commencement. On nous cite quelquefois les écrits des frères du commencement. Mais on les trompe, on cite des morceaux. Prenons l'écriture plutôt, n'est-ce pas ? Et voyons ce qui est nécessaire pour maintenir la discipline dans une assemblée et dans les assemblées qui forment un corps ensemble et dans lesquelles la décision de l'assemblée doit être reconnue par les autres, c'est clair. Ça a été clair jusqu'à maintenant, ça a été clair pour tout le monde. Il doit y avoir 40 ans maintenant que la CAFEB, ou 50 peut-être, ça a toujours été reçu parmi nous. Maintenant c'est discuté. Revenons à l'Écriture et tenons ferme la parole de Dieu et ce qui nous a été enseigné par des croyants que le Seigneur avait qualifiés pour cela et desquels nous avons reçu un enseignement riche et nourrissant. C'est pas la distraction, bien sûr, mais c'est quand même assez remarquable que des nouveaux venus à la foi parlent. Que je rencontre actuellement, que je visite, commencent dans l'écriture, ils sont convertis, ils s'intéressent à des brochures que leur passent, des brochures des frères, pour leur passe. Finalement, moi, je leur donne la Kintosh, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, la Kintosh. Ils sont enchantés. Ils lisent ça comme dévorent la Kintosh. Celui qui était à la tête de cette assemblée nouvelle, là, lui, il y a toujours un petit touche. Je visite actuellement une personne qui avait besoin de certitude. Elle a touché par côté, s'il a fallu qu'elle en sorte. Et bon, elle n'a aucune certitude. Donc, je vais maintenant le dévorer, ma petite touche. Et parmi nous, il y en a qui voudraient ôter ma petite touche des catalogues.